Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne, 1959-1960. L'immédiat. Aujourd'hui, cours numéro 3, enregistré le 21 décembre 1959, vers un immédiat à bon escient.
Après avoir parlé de la modernité de l'immédiat, nous parlions la semaine dernière de la modernité modernissime, comme nous disions, du retour à l'immédiat, pas le média, du retour à l'immédiat. Et signalions à cet égard, en terminant la séance, ce retour comme un bel exemple involontaire du renversement du pour au contre, ou peut-être en l'espèce du contre au pour. Dans le passage du retour de média à l'immédiat. Car, comme nous le montrions, l'immédiat, c'est par ces mots que je terminais, je crois, la séance, l'immédiat que l'homme retrouve au point d'arrivée ne ressemble en rien à l'immédiat qui lui servait de point de départ. L'immédiat qui est oméga, si on peut dire, ne ressemble aucunement à l'immédiat qui était alpha. C'est-à-dire à l'immédiat de son enfance. L'immédiat qu'il retrouve à l'arrivée n'est pas celui de son enfance. Mais comme il arrive à l'enfant prodigue, n'est-ce pas, qui retourne à la maison, quand il revoit la maison de son enfance, ce n'est pas la même. Je ne veux pas dire que celui qui est passé par la médiation est passé par le cycle des péchés, n'est-ce pas, et des frasques comme l'enfant prodigue. C'est pour plutôt vous faire comprendre de quelle manière le point d'arrivée rejoint le point de départ sans toutefois lui ressembler et s'identifier à lui. On pourrait donc comparer ces deux immédiats, et c'est bien entendu le deuxième que nous étudierons cette année. On pourrait les comparer comme on pourrait comparer l'innocence de l'arrivée, du point de départ, et celle de l'enfant, et l'innocence de l'arrivée, celle que conquiert, souvent à travers de toutes sortes d'épreuves et de souffrances, les poètes, les grands peintres, les musiciens, et qui n'est bien entendu pas du même ordre. De la même manière, la spontanéité de l'enfance, celle qui est un commencement, et la spontanéité de l'adulte, lorsque l'adulte redevient spontané, celle qui est terminale. Disons donc qu'il y a, puisque ce n'est pas de la spontanéité ni d'innocence, quoique naturellement ces deux problèmes ne soient pas sans rapport, bien loin de là, avec celui que nous étudions, on pourrait donc dire qu'il y a deux immédiats, n'est-ce pas, l'un qui est pré-réflexif et l'autre qui est post-réflexif, l'un qui est antérieur à la réflexion et l'autre qui est peut-être le résultat de la réflexion et qui vient après le mouvement de la réflexion. De même qu'il y a une innocence avant le péché, et paradoxalement, une innocence qui succède au péché, qui est trempée par les épreuves de la vie. Et ainsi, nous pourrions distinguer un double sens du mot immédiat. C'est peut-être par là que j'aurais pu commencer. Ça aurait été une sage précaution de commencer par cette distinction. Il y a deux sens du mot immédiat, comme il y a deux sens du mot spontanéité. L'un qui est chronologique, purement chronologique, et l'autre qui est philosophique. Au premier sens, c'est-à-dire au sens chronologique, l'immédiat est immédiat comme la crédulité impulsive de l'enfance est immédiate, comme la confiance trompeuse dans les apparences est immédiate. Alors en ce sens, l'immédiat est un principe d'erreur et un principe d'illusion. Il est à la source des opinions illusoires. De même que dans ce premier sens, nous disons qu'une opinion est spontanée lorsqu'elle est simplement le résultat de l'instinct, de la passion, ou quand elle est une opinion réflexe que nous avons parce que le milieu social nous la suggère, ou parce que nos viscères, nos organes nous la suggèrent. C'est pas une opinion qui a sa source dans les viscères, et bien spontanée si l'on veut, mais dans un sens physiologique. Dans le sens physiologique où les mouvements spontanés sont justement des mouvements automatiques. Puisqu'il y a un sens où spontanéité veut dire automatisme. Et dans ce sens, on peut dire donc que c'est la sensation brute, la sensation non dégrossie, la sensation non critiquée, puisque nous disions qu'elle est antérieure à la réflexion, c'est elle qui est immédiate. Et c'est la croyance réaliste, par exemple, aux indications du monde extérieur, aux indications de l'extériorité, la croyance que la chose que nous percevons est exactement la chose elle-même, c'est cette croyance qui est à son tour spontanée et immédiate. Et dans un deuxième sens, qui est le sens philosophique et qui est bien sûr le seul qui nous intéresse et le seul dont il puisse être question quand on parle, comme le mot l'indique, de retour à l'immédiat, d'un immédiat qui n'est pas celui que nous avons quitté, mais qui est un autre, c'est l'intuition bergsonienne et c'est la contemplation des mystiques. Et c'est même, en un autre sens, l'évidence cartésienne qui peuvent apparaître comme immédiates. Enfin, on peut dire que c'est bien un retour à la nature, un retour à la spontanéité de la nature, mais pour accomplir ce retour à la nature et pour redevenir spontané, il faut un grand effort. Par exemple, chez Descartes, pour cesser de croire au conte de nourrice, qui représente l'immédiat au premier sens, l'immédiat pré-réflexif, pour cesser d'être superstitieux, de croire aux tables tournantes, de croire aux conseils de la colère, de la vengeance, de la passion, de la concupiscence. Et pour redevenir simple et naturel, il faut souvent beaucoup d'études, beaucoup d'efforts, bien que cet effort soit négatif. Donc vous voyez comment cet immédiat est à la fois un retour à la spontanéité naturelle du mouvement de la pensée, et comment cette spontanéité elle-même ne se conquiert qu'à travers des épreuves, des détours et même finalement un grand effort. Et mieux encore, non seulement l'immédiat que nous retrouvons n'est pas le même que nous avons quitté dans notre enfance, mais il peut arriver même que ce soit celui-même que nous avons quitté dans notre enfance, mais que nous retrouvons à bon escient. Ici, c'est simplement le fait d'avoir vécu et de le retrouver. Naturellement, si l'immédiat que je retrouve n'est pas le même que celui de mon enfance, eh bien, ce renversement du pour au contre n'a rien de particulièrement étonnant. Et on ne peut pas dire que j'ai bouclé la boucle, on ne peut pas dire que le circuit soit refermé. Ce que je trouve à l'arrivée n'est pas exactement ce que j'ai quitté. C'est le cas, par exemple, dans l'évidence cartésienne. Mais il peut arriver, en outre, c'est notamment le cas des peintres, des artistes, des poètes, dont nous évoquions tout à l'heure le message, que l'immédiat que nous retrouvons soit celui-même que nous avons quitté. Quelle différence y a-t-il donc entre eux? Quelle différence y a-t-il entre l'immédiat avant et l'immédiat après, l'immédiat ultérieur? Puisqu'en un sens, c'est le même, dans la mesure, par exemple, où la poésie est une enfance. Eh bien, la différence qu'il y a entre eux, c'est le temps. Toute la différence qu'il y a entre eux, c'est le temps qui s'est écoulé. Le temps qui est la chose invisible, je ne sais quoi d'invisible, d'impalpable, d'impondérable. Même si dans ce temps, il n'y a pas eu des épreuves telles que celles qu'a probablement couru l'enfant prodigue, en courant le monde, n'est-ce pas, à travers mille débauches. Même si dans ce temps parcouru, il n'y a pas eu d'épreuves particulières, de souffrances, on peut dire que le fait même d'avoir vécu, d'avoir duré, d'être devenu entre-temps, le fait que du temps s'est écoulé, introduit entre le point de départ et le point d'arrivée une marque différentielle. Une marque différentielle d'autant plus mystérieuse et d'autant plus importante que précisément elle ne tient à rien, qu'elle ne tient pas. Naturellement, si de ces deux hommes, l'un est resté à domicile, et tandis que l'autre a parcouru la cordillère des Andes, n'est-ce pas, et que le deuxième, qui est son frère, après être monté au sommet de la cordillère des Andes, revient ensuite à la maison, différent de son frère, c'est pas étonnant, il a été dans la cordillère des Andes. Mais si il s'agit d'un homme qui est resté à Tôme, chez lui, à domicile, et qu'il y a pourtant une grande différence, eh bien, c'est cette différence qui sera métaphysique. Et cette différence qui le marquera du tout au tout, car elle ne tiendra pas aux fleurs extraordinaires qu'il a cueillies dans les montagnes, aux bêtes inconnues qu'il a vues, aux humains, peut-être, qu'il a visités, mais elle tient à cette marque mystérieuse qu'introduit en nous le temps écoulé. La passéité du passé, la temporalité du temps, le fait que quelqu'un a vécu et duré. Eh bien, je crois que c'est celle-là qui est la plus intéressante et la plus importante. L'immédiateté chronologiquement première dont nous parlions et celle du sens commun peut devenir philosophiquement une immédiateté ultérieure à la faveur du temps à écouler. Par exemple, quand on revient à elle en connaissance de cause. Quand on revient à elle en toute lucidité, quand on revient à elle à bon escient, en en prenant conscience, en sachant qu'elle est immédiate. Par exemple, quelqu'un qui redevient innocent en sachant que c'est l'innocence. Vous me répondrez immédiatement, comment peut-on être encore innocent quand on sait qu'on l'est ? N'est-ce pas? Parce qu'il semble que l'innocence exclut la conscience d'être innocente, sinon elle n'est plus... Elle en sait trop, elle est trop déniaisée, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là le mystère, on le peut. C'est-à-dire que il y a, comme nous le disions l'année dernière, en parlant d'autres problèmes, celui de la mort, ou d'un problème autre en apparence peut-être, et il y a ce qu'on appelle la réalisation. Nous réalisons que cette immédiateté est immédiate. Donc, quand je dis en toute lucidité, je ne veux pas dire par là que je sais quelque chose de plus, de matériel, que l'enfant ne saurait pas, mais j'ai la conscience de cette innocence, comme Socrate a un savoir qui est en un sens parfaitement vide. Ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. Voilà un savoir qui le tient en peu de mots. Sa principale supériorité sur les extravagants, les charlatans et les imposteurs, les marchands d'orvietans, dont nous parlions la semaine dernière, c'est que lui, il sait qu'il ne sait pas. Donc l'un et l'autre sont ignorants, mais l'un en a conscience et l'autre n'en a pas conscience. L'un réalise son ignorance et l'autre ne la réalise pas. De la même manière, entre l'immédiateté du commencement et l'immédiateté de la terminaison, il n'y a pas de différence de science peut-être. Sinon, la mystérieuse différence qu'introduit la conscience de l'immédiateté. Et qu'apporte avec elle peut-être cette conscience moderne dont nous parlions tout à l'heure. On peut aussi d'ailleurs, mais ce cas est évidemment moins caractéristique, revenir à cette immédiateté par défi ou par cynisme. Ou encore y revenir en faisant profession pour, par exemple, comme le philosophe qui prêche la simplicité. D'ailleurs, beaucoup de mots d'ordre de l'époque actuelle commencent par retour. Le retour à, n'est-ce pas, le retour à Bach, à Rameau, et même à Léo de Libes. Et M. Bergson nous proposait, dans son dernier livre, le retour à la simplicité. Le retour à la simplicité et Husserl préconisait le retour aux choses. C'est un peu notre problème, comme vous le verrez. Le retour aux choses elles-mêmes, le retour à l'ipséité des choses. Eh bien, ce retour, c'est donc de professer, pour la conscience moderne, de professer ses origines en passant par-dessus la tête... De la raison modernissime professe ses propres origines en passant par-dessus la tête de la raison moderne, de la raison médiatrice, en revenant à une conception, mais consciemment, à une conception naïve et adialectique, non dialectique, antidialectique du rapport de l'homme avec la donnée, du rapport de l'homme avec le réel. Mais il y revient en le professant, comme Pascal, n'est-ce pas, puisqu'il s'agissait du renversement du pour au contre, et même, en un certain sens, du retour aux préjugés, mais pour des raisons bien différentes de celles qu'avaient les nourrices et les professeurs de l'école, n'est-ce pas, et ils revenaient aux préjugés pour des raisons expérimentales, mais il y avait tout de même un retour au principe de la prévention, et un retour même à des concepts obscurs, qu'on ne nous reproche pas le manque de clarté, qu'on ne nous reproche pas l'immédiat, puisque nous en faisons profession, puisque cette fois nous le professons. C'est de cette manière que, au début du XIXe siècle, certains des philosophes sont revenus au sens commun, par exemple par-dessus la tête du phénoménisme de Hume et même du perceptionnisme de Berkeley, quoique Berkeley, à sa manière, cherchait l'immédiat dans la perception. Enfin, les Écossais, la philosophie du sens commun revient d'une certaine manière au concret et aux données en réagissant contre les abstractions, en accomplissant le même renversement. Le même renversement, si vous préférez, du contre au pour. On en dirait autant, par exemple, d'une philosophie du plaisir, qui est comme un super épicurisme et qui reviendrait aujourd'hui à la volupté, à la jouissance des épicuriens, mais qui reviendrait, on ne sait pas, même par ascétisme, ça peut arriver, par austérité, je sais pas, ça par une austérité probablement mal comprise, paradoxale, dans lequel le désir d'épater les bourgeois est peut-être très grand, mais enfin qui manifeste le même besoin du renversement du pour ou contre. Nous avons pu être témoins de ce retour un peu cynique, volontairement cynique, à l'apparence, à la jouissance, à ce qu'il y a en homme de superficiel, parmi les nombreux paradoxes que d'ailleurs qu'on lit dans les faux monnayeurs de Gilles, auquel l'auteur ne croit pas tellement d'ailleurs, ça se voit même dans le texte, il y a celui-ci, ce que j'ai de plus profond, c'est ma peau, n'est-ce pas ? Un homme du XXe siècle disant, par réaction contre la profondeur dialectique, celle qui s'enfonce de terme en terme dans des vérités de plus en plus cachées, dans les replis d'une vérité de plus en plus ésotérique, celle qui dit que tout compte fait, il valait mieux rester à la surface, car c'est cela qui est le plus profond. Ce qui est le plus profond, c'est l'apparence. On a pu être témoins, c'est pas nous qui l'avons été, mais nos ancêtres ont pu être témoins d'un pareil renversement bizarre, même au début du XVIIe siècle, dans la curieuse philosophie de Balthazar Gracian. C'est pas le jésuite aragonais qui est contre Platon, qui, professant un platonisme à l'envers, s'est amusé à déclarer si par hasard c'était l'apparence qui était la vérité. L'apparence qui fait la roue, par exemple, dans un pan qui fait la roue, une rose qui embaume, un soleil inutile qui illumine de sa splendeur, de ses teintes, le soleil couchant. Autant de choses auxquelles il ne faut pas se fier, au-delà desquelles le platonisme nous invitait à aller, puisque la dialectique remonte toujours au-delà, et auxquelles Gracian nous conseille de nous en tenir sagement, de nous tenir à l'apparence et à la splendeur resplendie. Ce n'est pas un vain hasard si Balthazar Gracian a exercé une grande influence sur Nietzsche, qui est pour beaucoup dans ce retour à l'immédiat du plaisir, à l'immédiat de l'apparence, et contre la profondeur, baptisée fausse profondeur, contre la profondeur de la conscience, dont il accuse les philosophes, Platon, l'idéalisme, pêle-mêle. Vous voyez donc que le culte même de l'instinct superficiel et la réaction contre la raison du rationalisme, contre la profondeur dialectique, réalise ce même renversement et que l'immédiat auquel elle revient peut très bien être celui-là même que nous désignait le sens commun, la naïveté réflexe et l'enfance même. Seulement, elle y revient après avoir subi des épreuves, après avoir parcouru le cycle du temps, après avoir vécu. Et elle, ce qu'elle dit, même si c'est la même chose, elle le dit avec un accent différent, comme un vieillard ou un adulte qui dit les mêmes choses qu'un jeune homme, mais qui les dit en connaissance de cause. Il n'y a aucune différence entre les phrases de l'un et les phrases de l'autre, mais il y a une différence de sonorité, une différence qui, en somme, est une différence du tout au tout, qui fait qu'elles n'ont pas le même sens et qu'elles peuvent convaincre davantage. Voilà donc déjà, situé des deux immédiats, dont le deuxième seul sera l'objet de ces séances, d'un immédiat chronologique d'une part, et un immédiat ultérieur auquel on revient après le détour de la médiation, et un immédiat qu'on a mérité, si vous préférez une expression peut-être un peu trop morale, qu'on a mérité par son labeur. Entre ces deux immédiats, celui à parté ante et celui à parté poste, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, entre les deux, il y a la grande zone intermédiaire de la médiation, qui est aussi celle du sérieux, celle de la conscience prosaïque et sérieuse, qui s'astreint aux travaux forcés de la médiation. Entre l'immédiat du début et celui de la terminaison, il y a donc la zone moyenne, qui est la zone naturelle du sérieux et de l'intermédiarité, et qui est déjà intermédiaire en raison même de son caractère ambigu. Car la médiation, surtout pour une philosophie qui veut reconquérir le rapport avec la donnée immédiate, apparaît comme un mal nécessaire. Et si vous réfléchissez sur le concept du mal nécessaire, vous y trouvez, dans l'alliance même des deux mots, l'alliance paradoxale, scandaleuse et même diabolique des deux mots, l'idée de l'ambiguïté, car comment un mal peut-il être nécessaire ? Un mal nécessaire, c'est l'enfer, n'est-ce pas ? D'une certaine manière, la nécessité du mal, ce serait l'enfer. Ce devrait être une idée diabolique, car il paraît être de l'essence du mal de n'être pas nécessaire, mais contingente, d'arriver par hasard, comme un homme qui fait le mal. Il fait le mal, personne ne l'en priait. Il le fait parce qu'il est méchant, mais le monde pouvait très bien se dispenser de cette méchanceté. Le monde pouvait se dispenser de la parole dure qui a été prononcée aujourd'hui à Paris, dans tel quartier de Paris, par exemple, qui est un péché, n'est-ce pas ? Donc une chose gratuite. Et inversement, rien de ce qui est nécessaire ne devrait être mauvais. Donc, il y a, dans l'idée même du mal nécessaire, si elle ne doit pas être une pensée diabolique, une pensée infernale et insupportable, une ambiguïté profonde, un caractère équivoque, évoque, et comme je le disais, un caractère intermédiaire. D'une part, ce mal nécessaire est un mal. D'une certaine manière, et relativement, non point absolument, c'est un mal dans la mesure où il trahit la finitude de la créature et l'obligation pour elle de la malédiction en vertu de laquelle il faut qu'elle passe par des moyens termes qui l'empêchent d'arriver au but directement comme elle en aurait envie, comme elle le voudrait, de même que c'est une malédiction qui oblige Adam, chassé du jardin de félicité, à conquérir les fruits de son travail à la sueur de son front par un labeur qui prend du temps et qui oblige Ève à son tour à procréer, à enfanter une progéniture dans la douleur, dans de grandes souffrances. Donc, dans les deux cas, dans le travail ou dans l'enfantement, il apparaît que le détour par lequel l'homme est obligé d'obtenir ce qu'il aurait voulu obtenir instantanément, immédiatement, est comme une espèce de châtiment, et par conséquent comme un mal. C'est donc, ces moyens termes sont donc un moment, si vous préférez le sens temporel que nous avons analysé il y a 8 jours, est un moment provisoire et qui, comme tous les moments provisoires, demande à être dépassé. Un moment est ce par quoi on passe et ce qu'on doit dépasser. On y passe et on le dépasse, comme les épibaseis platoniciennes dont nous parlions la semaine dernière, les tremplins, les degrés par lesquels on s'élève. C'est donc un terme à supprimer, comme l'indique même la vocation, le sens des moyens termes. L'âme passe à travers, l'esprit passe à travers dia, comme l'indique le mot dialectique, comme l'indique le mot dianoïa, n'est-ce pas, qui est, je différenciais la semaine dernière, de la noésis. La dianoïa, qui est une intuition réfractée, une intuition à travers, qui passe au travers, qui passe et dépasse. Donc, premièrement, ce mal nécessaire est un mal. Mais deuxièmement, il est nécessaire. C'est maintenant l'adjectif qu'il nous faut gloser, n'est-ce pas, et qui complète l'équivoque et l'intermédiarité de cette médiation. D'autre part, il est nécessaire. En ce sens que ce n'est pas un purgatoire gratuit que nous nous infligerions de gaieté de cœur, comme ça par jeu, comme un monsieur qui s'ennuie et qui, faute de problèmes à résoudre, invente des charades, des mots croisés, des jeux difficiles, et ce qui lui donne la migraine, comme s'il était obligé de jouer aux échecs, par exemple, et d'avoir la migraine. Et là, mes moyens termes ne sont pas, donc, un purgatoire, une épreuve ludique, dans le même sens que ces jeux que l'homme qui s'ennuie s'impose à lui-même. Ce n'est donc pas un stage auquel l'homme s'astreindrait sans nécessité. N'est pas davantage un allongement gratuit de son itinéraire, comme un homme qui se promène et dont le but n'est pas d'arriver immédiatement à la maison où il va, mais dont le but est de faire une promenade. Ce n'est pas une promenade que l'esprit ferait en battant les buissons, en faisant l'école buissonnière, au lieu de prendre des raccourcis. Rien de tout cela. Ce n'est point un obstacle de luxe. Ce n'est point une complication de l'intelligence. C'est une condition métaphysique, n'est-ce pas ? C'est une condition métaphysique qui est inhérente à la condition de l'homme en tant qu'homme, n'est-ce pas ? Et qui a donc un caractère organiquement nécessaire, un caractère constitutionnellement nécessaire. Ce n'est pas par luxe que l'homme doit passer par là, c'est parce que l'homme est un homme et que l'essence de son esprit est de ne pas pouvoir saisir la donnée brute du premier coup, la donnée pure, la donnée crue du premier coup, et sans passer par des moyens. Et par conséquent, ceci nous réconcilie avec les moyens, puisqu'ils deviennent positifs. Ils ont un caractère, comme on dirait d'un mot grec bien facile à comprendre, mais qui fera penser ceux qui savent le grec à Platon, c'est un moyen qui a un caractère agogique. Again. Ça veut dire qu'il nous conduit par la main. Il nous guide par la main. Il va quelque part. C'est un moyen de trouver la vérité en nous conduisant par la main. Et par conséquent, c'est une négativité essentiellement positive que cette négativité médiatisante. Comme l'est d'ailleurs, sous une autre forme, que l'homme expérimente physiquement dans son être, dans sa condition finie, comme le sont l'espace et le temps. L'espace, tout au moins par le mouvement, qui en est la conséquence, et l'effort qui est la conséquence de ce mouvement. L'espace nous sépare des autres, par exemple. Nous sépare des villes où nous voudrions être, comme par exemple Pont des Soupirs, là, quelque part, là où il y a des pigeons, à Venise, qui est loin. L'espace nous rend multi-absents, omni-absents, fait de l'être présent quelque part un être omni-absent. Mais y bien réfléchir, l'espace rapproche et relationne autant qu'il sépare. Car s'il empêche l'être fini d'être partout présent, comme seuls les dieux, s'il l'oblige à rester dans la collocation de son lieu privé, et là seulement, par contre, l'espace, c'est la possibilité de tous les mouvements, n'est-ce pas ? On dirait que Dieu nous a donné l'espace, enfin, ayant condamné l'homme à être dans son petit canton, c'est pas comme la monade de Leibniz, à être cantonné à son petit point de vue, à l'ombre de son clocher, par exemple, si elle habite un village dans le département des Basses-Alpes, par exemple, eh bien, elle lui a par contre permis de faire tout ce qu'il voudra dans l'espace. Voici l'espace, au moins, fais tout ce que tu voudras. Marche, prends le train, va à la nage, en ski, et même en avion. Donc, tout ce qui est possible est permis. Donc, l'espace est un milieu parfaitement obéissant dans lequel l'homme a la permission de faire ce qu'il voudra. Et il en est de même du temps. D'une certaine manière, le temps est la marque de notre finitude, en ce sens qu'il nous enchaîne à ce petit canton temporel qu'on appelle le maintenant, n'est-ce pas, et qui reste lié à ici, hic et nunc, et qui fait de l'être présent un être incapable, comme dit le proverbe, d'être et d'avoir été. Je voudrais être et avoir été, être à la fois vieux et jeune, qui me rendra mes 20 ans, etc., etc. Et en même temps qui me sépare de l'avenir, si tant est que je sois impatient de le voir arriver. Bref, qui sépare les moments du temps les uns des autres, et qui fait de cette promenade à travers ces moments, qu'on appelle la durée, quelque chose de lent, de laborieux, d'ennuyeux, qui éveille les impatiences, qui me rend impatient. Mais d'une autre manière, et plus encore que l'espace, le temps est un milieu absolument docile, absolument obéissant, encore plus que l'espace. Parce que dans l'espace, on va plus ou moins vite selon le véhicule qu'on emprunte, et tout le monde ne peut pas se promener en avion à réaction. Et donc la permission est une permission métaphysique, mais elle n'est pas toujours technique. Au contraire, le temps, c'est le milieu absolument qui n'oppose absolument aucune résistance à l'homme. Et dans lequel toutes les opérations de l'homme, le travail, à commencer par lui, le travail qui modifie notre avenir, qui parfois le rend plus proche, qui en tout cas en modèle la figure, le rend tel que nous le voudrions, dans lequel toutes ces opérations sont devenues parfaitement possibles. Et par conséquent, voilà le beau cadeau que l'homme a fait à l'homme déchu, si tant est qu'il est déchu, n'est-ce pas ? L'ayant chassé de l'éternité. De l'omniprésence et de l'éternité, et de l'omniprésent, l'omniprésence dans l'espace et de l'omniprésent qui est l'éternité dans le temps, il lui a tout au moins donné le temps et l'espace comme étant des milieux obéissants dans lesquels l'homme avait la latitude de faire tout ce qu'il voudrait. Eh bien, cette digression était pour montrer, car c'en est une, était pour montrer que finalement, la positivité, la négativité de la médiation qui me sépare de la donnée est aussi une positivité passionnante dans laquelle l'homme peut médiatiser, rendre proche ce qui est lointain. Absent ce qui est présent. Rien que par son travail et par son effort. Et par conséquent aussi, puisque ce concept de médiation intermédiaire entre les deux immédiatetés dont je viens de parler était naturellement ambigu, il y aurait aussi deux manières d'être frivole par rapport à ce sérieux. Et par conséquent, encore, deux manières d'être unilatérale. Car la frivolité est souvent une forme de l'unilatéralité. Par exemple, ce serait le régime de la fin sans les moyens, ou le régime des moyens sans la fin. Il y a deux façons inverses d'être, de manquer de sérieux, par rapport à la sphère intermédiaire entre les deux immédiats dont je viens de parler, et ces deux façons inverses de manquer de sérieux, c'est de pratiquer, c'est de vouloir la fin sans les moyens, ou de vouloir les moyens sans la fin. Par conséquent, d'être trop en avance, comme celui qui veut la fin tout de suite, sans passer par le purgatoire, ou au contraire, d'être à la traîne, en arrière, comme la plupart des hommes qui, eux, se délectent parmi les moyens et finissent par oublier la fin dont ces moyens sont les moyens. Donc, en avance ou en retard, il est probable qu'entre les deux, il y a une sphère du véritable sérieux qui serait celle du présent, de même que l'évidence cartésienne est intermédiaire entre la prévention et la précipitation, entre l'homme précipité et l'homme prévenu. C'est-à-dire, l'homme retenu en arrière par les moyens sans fin, qui sont comme un corps sans tête, et l'homme tiré en avant par la fin sans les moyens, qui est comme une tête sans corps. D'un côté des corps acéphales, et de l'autre une tête privée de corps. Eh bien, commençons, si vous voulez, par la première frivolité, c'est-à-dire la première unilatéralité, celle qui nous fait demander tout de suite la fin sans les moyens, puisqu'aussi bien nous retrouverons, à part un biais, ce qui a été dit la semaine dernière à propos de Platon. La fin qui est une chimère. La première frivolité unilatérale consiste à considérer unilatéralement les moyens comme une malédiction, non point indispensable, mais au contraire parfaitement dispensable, comme ce luxe gratuit dont je viens de parler tout à l'heure. Si par hasard, en effet, ces moyens termes n'étaient rien de plus qu'un jeu comme le jeu des échecs, le nain jaune dont tout à l'heure je parlais. Et alors l'homme veut survoler à tire-d'aile cet intermédiaire, comme les anges, survoler la zone intermédiaire, c'est ce que nous appelions, enfin avec beaucoup d'autres d'ailleurs, la semaine dernière, le péché d'angélisme, la frivolité de l'angélisme. C'est celle probablement, quoique sous un autre nom, que Platon désignait par l'adverbe non dialectique, l'adverbe adialectique, que je signalais il y a 8 jours à l'usage de ceux qui savaient ce mot grec, eutus. Eutus, avec un theta, qui veut dire tout de suite, aussitôt. L'adverbe adialectique. Eutus, c'est l'adverbe de ceux qui font les anges, comme nous l'avons montré. C'est donc le premier manque de sérieux, le manque de sérieux le plus usuel, enfin le plus auquel on réserve en général le mot de manque de sérieux, celui qui est commun aux magiciens, aux thaumaturges, aux détenteurs de la pierre philosophale, aux détenteurs aux tous ces marchands dont nous parlions, les praticiens des transmutations miraculeuses et des métamorphoses féeriques, qui ne connaissent pas les moyens termes, qui ne veulent pas connaître les chemins du déterminisme et de la légalité, et passer par ces intermédiaires. Remarquez que d'ailleurs, ce n'est pas seulement de la charlatanerie, ce n'est pas seulement le fait d'un homme pressé. Chez les plus roués, ça peut aussi bien être une forme dangereuse de machiavélisme, une forme très subtile de machiavélisme et de mauvaise volonté, que celle qui consiste à vouloir la fin tout de suite, à vouloir à tout prix. Celui qui veut la fin à tout prix, c'est-à-dire tout de suite, c'est-à-dire sans les moyens qui la rendraient humainement possible, j'étais sur le point de dire qu'il la possibiliserait, mais le mot était vraiment vilain, sans les moyens qui seuls rendraient cette fin accessible, cela... C'est probablement qu'ils veulent expressément ne pas la rencontrer. Ce n'est pas seulement qu'ils sont des étourdis, des étourneaux qui s'exposent à la manquer, c'est que dans beaucoup de cas, ils veulent la manquer et ils cherchent un moyen honorable de la manquer. C'est d'ailleurs, dans bien des cas, la définition de cette quête hypocrite d'immédiat qu'on appelle le purisme. Les puristes, ce qu'on appelle, enfin qu'on j'appellerais volontiers puristes, extrémistes en tout genre, absolutistes en tout genre, et généralement, et plus souvent encore, dans le genre de la mauvaise foi. Ceux-là veulent la fin tout de suite parce qu'ils savent que c'est le meilleur moyen de ne pas l'avoir, comme ceux qui disent la vérité à tout prix, et tout de suite parce qu'ils savent que c'est le meilleur moyen de la rendre invivable, de la rendre impossible et d'en dégoûter les hommes, comme ceux qui veulent la liberté sans aucune condition, tout de suite, à tout prix, et quelle que soit la forme qu'elle revêt, parce qu'ils savent que c'est le meilleur moyen de la faire crever, et que c'est cela qu'ils désirent, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qu'ils veulent, c'est que la liberté crève. Et c'est souvent le meilleur moyen dans cette vue. Par conséquent, la volonté de la fin seule, de la seule fin, de la fin sans les moyens, n'est, comme vous le voyez, dans le meilleur des cas, qu'une demi-volonté, un petit bout de volonté misérable, une volonté de 4 sous, une velléité. C'est pas une velléité, c'est ça, c'est une petite, toute petite volonté qui ne vaut pas bien cher. Et parfois même, c'est pire que cela, c'est une non-volonté. comme dirait Renouvier, d'un mot ingénieux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ne pas vouloir, si on peut dire, une volonté. Et pire que cela encore, parfois c'est une mauvaise volonté. Vous voyez que de la velléité, de la petite volonté qui est velléité à la nolonté, et de la nolonté à la mauvaise volonté, qui est la volonté du contraire, n'est-ce pas ? La volonté de l'esclavage, par exemple, la volonté pure de la liberté, c'est la volonté de la servitude. Non seulement c'est souvent une demi-volonté de celui qui veut la liberté dans son cabinet, simplement, en écrivant des livres, mais qui ne tient pas à autre mesure à ce que les hommes soient libres, c'est simplement un philosophème, ingénieux pour le théoricien, mais encore, ce cas n'est-il que bénin, il arrive que parfois... Il cherche justement la servitude. Il la cherche expressément. Et ainsi, celui qui veut plus généralement encore un résultat séance tenante, et ou qui veut le but en sautant à pieds joints par-dessus des obstacles qu'il sait qu'il ne pourra franchir, et par-dessus, et indépendamment des moyens qui rendraient ce but accessible, en réalité fait semblant de vouloir. Il joue la comédie de la volonté. En réalité, il veut tout autre chose, et probablement, il veut obscurément l'échec. Ou bien, ce vouloir est simplement un vœu platonique, un pieux optatif, si on peut dire, quand ce n'est pas la subvolonté du contraire. Nous avons tous connu, quelquefois, des amoureux un peu suspects, qui étaient en apparence amoureux, et qui s'arrangeaient, se mettaient dans une situation telle qu'ils devaient rater leur rendez-vous, par exemple, n'est-ce pas ? Qui voulaient obscurément les conditions qui feraient échouer leur but, n'est-ce pas ? Soi-disant, ils avaient très envie de quelque chose, mais nous sentions bien une sourde mauvaise volonté que nous ne pouvions pas assigner, parce qu'en apparence, de toute leur volonté, ils voulaient ce but, ils voulaient la femme aimée. Mais nous rendions bien compte qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait pour l'avoir, n'est-ce pas ? Ils ne disaient pas les paroles qu'il fallait. Par exemple, ils partaient pas à l'heure, n'est-ce pas ? Ils s'arrangeaient pour arriver une demi-heure, c'était jamais de leur faute, c'était la faute d'un embarras de la circulation, comme par hasard, qui était là, n'est-ce pas ? Mais probablement qu'ils avaient cherché l'endroit encombré pour ne pas arriver à l'heure. Enfin, il y a toutes sortes de mécanismes obscurs qu'un psychologue démêlerait mieux que nous, probablement, et qui avaient fonctionné et qui expliquaient que cette volonté n'en était pas une. Mais laissons de côté ces bavardages qui m'éloignent de mon but. Je parlais de la deuxième frivolité à laquelle il faut bien en venir maintenant. La deuxième unilatéralité que je désignais par la volonté des corps sans tête. Tout à l'heure, c'était les têtes sans corps, le but privé des moyens, et maintenant, c'est la volonté des moyens sans la fin. Tout à l'heure, il y avait du charlatanisme, et même du machiavélisme, comme nous l'avons vu, et la plus noire hypocrisie. Maintenant, il y aurait autre chose. Ces mots conviendraient mal. C'est plutôt le mot de trahison qui s'imposerait. Quelque chose comme une trahison. D'ailleurs, il y a quelque chose, cette fois, qui s'opère à longueur de temps. Peu à peu, l'homme prend goût aux moyens. Tout à l'heure, l'homme impatient sautait à pieds joints sur la faim, comme le tigre sur sa proie, mais le tigre ne veut pas la manquer, contrairement à l'homme qui cherche à la manquer. Et cette fois, il s'agit d'une accoutumance. Et comme le mot accoutumance l'indique, d'un processus qui s'opère peu à peu à travers le temps. Par un phénomène que les psychologues et les sociologues pourraient étudier également mieux que nous, et que nous pourrions appeler d'un mot l'adhésion ou l'adhérence. L'homme adhère peu à peu aux moyens, dans l'oubli de leurs fonctions. C'est-à-dire qu'il s'en tient à l'aspect exotérique du moyen, en oubliant sa fonction que tout à l'heure nous appelions agogique. Il oublie la fonction agogique du moyen, parce que la fonction ne se voit pas. Par exemple, on lui donne des moyens termes à manier, qui sont comme l'argent, comme le numéraire, comme les concepts, et qui sont destinés à penser, n'est-ce pas ? Qui sont destinés à un autre but, qui mène quelque part. Pour ne pas perdre de vue le but auquel ces moyens mènent, il faut tenir ferme la ligne de mire, n'est-ce pas ? Il ne faut pas quitter cette ligne de mire. Seulement, l'homme s'amuse avec les moyens qu'on lui donne, et finit, comme nous disions, par y prendre goût. Donc, prendre goût, adhérer, s'accoutumer, ce sont des verbes qui impliquent un processus, une transformation à travers le temps. À force de se frotter aux moyens, À force de, n'est-ce pas ? Le mot à force de lui-même désigne donc un phénomène d'accoutumance et de familiarité dans l'entre-deux, dans l'intermédiarité de la vie quotidienne, où l'homme a affaire aux moyens. À force de s'y frotter, l'homme y prend goût et cette fois oublie la fin dont ses moyens sont les moyens. C'est là la frivolité inverse. Comme un myope mental, atteint de micropsychie, n'est-ce pas, de petitesse mentale, qui se perd dans les détails et qui perd de vue la totalité, l'ensemble. Platon, que nous citons souvent, a été très sensible à ça et invite l'esprit à se garder contre la micropsychie, contre la petitesse d'esprit, à rester magnanime, à garder sa mégalopsychie, c'est-à-dire à ne pas perdre de vue l'ensemble, que les hommes perdent de vue si souvent, car ils se plaisent dans les détails. Il y aurait donc un processus que nous n'avons pas le temps d'étudier, d'ailleurs qui n'intéresserait pas notre propos, d'oubli, d'une part, d'oubli de la fin, d'accoutumance aux moyens, transformés en fin en soi, la fin hypothétique ou provisoire devenant une fin catégorique, devenant une fin inconditionnelle, par un transfert que les psychologues et les sociologues ont étudié. Naturellement, ce transfert, cet oubli, cette accoutumance aux moyens est grandement favorisée par la vie quotidienne. Elle est grandement favorisée par l'existence journalière, car vous comprenez bien que la vie journalière, la quotidienneté, est un commerce avec les moyens, et non point avec la fin. La fin, c'est pour le dimanche, pour les grandes fêtes. Le jour des grandes fêtes, on pense à la fin, comme les hommes pensent à leur mort de temps en temps, et au bon Dieu, dans le meilleur des cas, deux ou trois fois par an, et encore c'est beaucoup pour la plupart des hommes. Alors le reste du temps, à quoi pensent les hommes ? S'ils ne pensent pas à la fin, eh bien ils pensent aux moyens, car c'est avec les moyens qu'est tapissé l'intervalle. Si on peut s'exprimer ainsi. L'intervalle, ce sont les moyens qui foisonnent, ce sont les moyens qui pullulent et qui tapissent l'intervalle comme un tissu conjonctif qui envahit tout, n'est-ce pas, et qui relie entre les organes, et qui est un tissu moins noble que les autres, paraît-il, n'est-ce pas, et qui relie entre les organes. Tout se passe donc comme si ces concepts intermédiaires, ces moyens termes, qui sont moins nobles que les fins dont je parlais tout à l'heure, tapissaient l'entre-deux, remplissaient l'intervalle, de façon qu'il y ait dans l'intervalle quelque chose. Voilà comment on peut dire que la vie de l'homme, la vie quotidienne, est un commerce avec les moyens. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'homme attache son importance à l'argent, n'est-ce pas ? Car, comme vous n'ignorez pas, ce n'est pas un grand secret, que les hommes attachent énormément d'importance à l'argent, qui est l'argent, enfin les espèces, l'argent, quoi, ce qui est un moyen entre les moyens et le moyen des moyens, d'ailleurs. Car si les moyens eux-mêmes ne sont que d'humbles moyens, l'argent est un moyen de se procurer ces moyens. C'est donc un moyen encore plus abstrait, indirect, secondaire que les moyens et que les autres moyens. Et les hommes oublient même les biens dont cet argent est le moyen pour ne s'intéresser qu'à l'argent lui-même. Voilà donc la deuxième frivolité de l'homme. C'est celle que probablement Platon aurait désigné, s'il avait été son propos, par l'adverbe braduteron. Je disais la dernière fois que, en parlant de ceux qui font l'un tout de suite, il était bon d'ajouter que Platon condamnait de la même manière ceux qui faisaient l'un trop lentement, qui s'arrêtaient à toutes les stations, comme un omnibus, pas qui est énervant, qui s'arrête à toutes les stations, même les plus petites. Braduteron, kai tacton. Tacton, ce sont les messieurs pressés, dont nous avons abondamment parlé, et au contraire, braduteron, ce sont les myopes, les gens atteints de micropsychie, et les gens qui prennent l'omnibus, et puis qui oublient pourquoi ils sont venus, comme ça arrive quelquefois. On oublie pourquoi on est là, pourquoi on est venu. Cet oubli est donc la deuxième frivolité. Voilà donc une sphère qui est, comme vous le voyez, deux fois intermédiaire, parce qu'elle est d'abord chronologiquement intermédiaire entre l'immédiat a parte ante et l'immédiat a parte poste, et qui d'autre part est intermédiaire parce qu'elle est intermédiaire entre deux angélismes, entre deux frivolités. Plutôt angélisme convient un peu aux frivoles de la deuxième catégorie qui ne ressemblent en rien à des anges. C'est pourquoi j'ai tort de dire deux angélismes. Qui est intermédiaire entre deux frivolités, l'angélisme, frivolité numéro 1, n'est-ce pas, celle de la fin sur les moyens, et d'autre part, la frivolité numéro 2, dont je disais qu'elle n'a rien d'angélique, et qui est celle des moyens sans la fin. Le moyen amputé de la fin, le moyen mutilé de la fin dont il est le moyen devient lui-même une fin. Par un phénomène qui ressemble à une compensation organique d'ailleurs, qui a la même physionomie qu'une totalisation qu'une régénération organique. Lorsque le moyen n'a plus de fin, c'est qu'il est devenu lui-même une fin, et une fin en soi, qu'il a régénéré en quelque sorte. Et alors, il se produit ceci, qui est bien singulier, qui me fait d'ailleurs un peu anticiper sur ce qui devrait être dit beaucoup plus tard, c'est que l'homme finit par avoir un rapport immédiat avec ses moyens eux-mêmes, puisque c'est avec eux qu'il a un commerce quotidien. Oubliant la fonction agogique, odégétique de ses moyens, qui mène quelque part, dont l'intention est d'aller vers, dont l'intention est d'être traversé sans qu'on s'arrête, de nous permettre d'aller plus loin, comme les épibaseis kai ormai, il s'ensuit que l'homme qui y prend goût finit par avoir avec eux une espèce de rapport immédiat, si bien que la seule immédiateté que l'homme connaîtra, le seul rapport que l'homme connaîtra, sera paradoxalement, dérisoirement, ce rapport même avec les moyens. C'est avec le médium que l'homme a un rapport immédiat. D'ailleurs, je disais prendre goût. Bah, prendre goût, c'est déjà une expression qui annonce la saveur, enfin la participation affective, un intérêt affectif. L'homme qui prend goût, même aux espèces sonnantes, a fortiori à faire de la grammaire, par exemple, pour dire le mal de mes collègues grammairiens, enfin, l'intention de Platon, quand il écrivait des dialogues, n'était pas de fournir une matière aux grammairiens, n'est-ce pas? Ça n'est pas pour mettre mon métier au-dessus de celui des grammairiens, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, mais enfin, vouloir comprendre Platon, ce qu'il dit, est plus conforme à l'intention de Platon que de vouloir raconter le nombre de fois qu'il dit la proposition, la conjonction kai, par exemple, ou la façon dont il use de l'infinitif, car l'intention de Platon était de communiquer le sens. Donc, l'homme qui prend goût à la grammaire de Platon, et on peut y prendre goût, car c'est très intéressant, très important, et très amusant, visiblement, a fini par avoir une espèce de relation primaire et immédiate avec quelque chose, par exemple avec l'art de Platon, avec la tournure de sa phrase, dans laquelle on peut lire de nouveau son génie. Et donc, il retrouve une immédiateté, c'est la revanche de nos collègues philologues, de nos collègues grammairiens, plus sensibles que nous à certaines choses, et peut-être doués d'une intuition que nous n'avons pas. Nous qui cherchons directement le sens, peut-être parce que nous sommes trop pressés, sans connaître suffisamment la grammaire, sans s'intéresser suffisamment au texte lui-même, eh bien, parce que nous sommes trop pressés, eh bien, nous connaîtrons peut-être le sens moins bien que ceux qui se sont au contraire, qui ont eu un rapport intime, familier, avec ces mots qui sont devenus pour eux comme une langue maternelle, n'est-ce pas, et qu'ils lisent comme leur langue maternelle, et en y trouvant paradoxalement un sens. En tout cas, il arrive ici quelque chose qui est bien singulier, qui est le report du mystère de l'immédiateté. Le mystère de l'immédiateté qui nous semblait réservé au moment où nous trouverions à la fin, n'est-ce pas, après la médiation, où nous trouverions la donnée que nous avons tellement méritée par notre effort, eh bien il arrive que ce mystère soit reporté en cours même de médiation, dans le rapport immédiat que l'homme a avec les choses médiates, puisque sa vie aussi bien est ce commerce avec les choses médiates. Et parce que l'homme prend goût. Pour donner un autre exemple, qui n'a, comme vous verrez, rien de commun avec Platon ni la grammaire, mais qui lui est apparenté uniquement dans la mesure où il s'agit du report de la fin sur les moyens, et le report de l'immédiateté, l'homme qui prend goût aux dissonances, qui, dans une harmonie classique, sont faites pour se résoudre. L'intention d'une bonne dissonance, en bon régime bourgeois et académique, est de se résoudre en consonance, n'est-ce pas ? Mais comme ça finit par être ennuyeux, l'homme oublie la consonance, l'accord parfait, qui est l'intention finale de la résolution, sur laquelle la dissonance se résoudra, et prend goût à la dissonance en elle-même. Il y a un report du plaisir. Enfin, le plaisir de repos que l'homme éprouverait seulement quand il arrive à la consonance, il va l'éprouver, comme Debussy, par exemple, alignant des neuvièmes de dominante parallèles, ou des septièmes parallèles, il les trouvera dans la dissonance elle-même, et dont la résolution est reportée à l'infini, ajournée, et parfois même supprimée totalement. Il y a donc un report de l'impératif arbitraire du plaisir, un report de la postulation hédonique, n'est-ce pas, et du plaisir de l'homme, du plaisir en soi, dans lequel la valeur hypothétique est devenue à son tour catégorique par contagion et catégorique par contamination. et inconditionnelle par contamination. Ceci nous indique déjà cette transformation du conditionné en inconditionné, du conditionnel en inconditionnel, par l'adhérence ou par l'adhésion de la conscience au moyen. Elle nous indique que le véritable sérieux devrait être, comme Platon lui-même nous l'indique, sans employer ce langage, bien sûr, sans employer ces mots, consisterait à éviter de s'arrêter au niveau des moyens. Et en ce sens, on peut dire qu'il est l'opposé de la sottise, car la sottise est toujours adialectique. Elle perd de vue l'intention des moyens. Elle oublie l'intention de ces moyens, qui est leur fin. Et la précaution du sérieux, ce sera donc de ne pas transformer l'hypothèse en thèse. Dans hypothèse, il y a hypo, n'est-ce pas ? C'est une thèse qui est par-dessous, provisoire. Une thèse provisoire pour conduire à une thèse définitive que peut-être jamais nous ne verrons, dont peut-être jamais nous n'aurons l'intuition. En tout cas, dont l'intuition n'est pas assignable matériellement, n'est pas pour demain, n'est pas pour ce soir, cet après-midi à 6h, n'est pas une promesse qui nous est faite et sur laquelle nous aurions un droit, mais qui est une récompense située à l'infini. Donc, il y a un élan dialectique qu'il faut conserver pour ne pas transformer l'hypothèse en thèse, pour ne pas s'endormir à l'étape, comme le font souvent les hommes, allant quelque part comme un croisé, un faux croisé qui va à Jérusalem pour délivrer le tombeau du Sauveur, et en route, il trouve qu'après tout, il voilà un bien joli kiosque aux environs de Constantinople, et si je m'y fixais. Il oublie pourquoi il est parti, avec son armure, avec ses armes, il oublie qu'il est en croisade, et il s'installe pour une villégiature prolongée aux environs de Constantinople. N'est-ce pas ? Eh bien, je dirais volontiers que l'homme qui transforme l'hypothèse en thèse ressemble à ce dialecticien qui prend goût, n'est-ce pas ? Qui finalement se trouve assez bien sur le palier, sur l'hypothèse, au niveau de l'hypothèse qu'il a atteinte, s'endort à l'étape pour boire à l'ombre. S'endort, comme on dira plus tard, d'un sommeil dogmatique, n'est-ce pas ? De ce bon sommeil satisfait, complaisant, qui est une des formes les plus caractéristiques de la bonne conscience et de la bonne digestion, de la bonne conscience bien contente de celui qui s'installe bourgeoisement au niveau de l'hypothèse, pour y élire domicile, pour y faire un séjour, pour une villégiature, et non pas pour s'en servir à demain les épibaceis et ormaille, c'est beaucoup trop fatigant que ces étapes, ces degrés intermédiaires, il s'agit cette fois d'une véritable résidence que nous avons choisie parmi les intermédiaires. Au fond, voyez-vous, c'est peut-être cela l'ironie socratique, n'est-ce pas ? L'ironie est peut-être le principe de mobilité qui maintient le pèlerin en état de pèlerinage, n'est-ce pas ? Qui maintient le croisé dans l'atmosphère inquiète de sa croisade, pour qu'il n'oublie pas le tombeau du Sauveur, enfin le Graal, le quelque chose qu'il va chercher. Il ne faut pas que la conscience oublie le Graal. Je m'excuse de citer des exemples si topographiques, parce que Jérusalem, le Graal, tout ça, ce sont des choses bien trop localisées dans l'espace, beaucoup plus que ne l'est la Nupotéton de Platon, qui lui n'est pas perché, n'est pas ici ou là, n'est pas quelque part. Et par conséquent, la quête qui nous y conduit n'est pas comme la quête du Graal, une quête dont on peut prévoir le terme, mais c'est une chasse infinie. Eh bien, c'est cette ironie qui est le principe de la mobilité qui nous empêche de nous arrêter. Et en même temps, qui réveille le dormeur, n'est-ce pas ? C'est elle qui réveille le dormeur. Vous vous rappelez peut-être que Socrate ne dort guère. Il dort jamais. On ne sait pas quand il dort, de même qu'il ne se saoule jamais, même quand il boit, de même il n'a pas besoin de dormir. À la fin du banquet, vous vous rappelez, si vous avez lu ce merveilleux dialogue, quand tous les convives sont abrutis, fourbus, vannés et en ont assez, rentrent pour se coucher, Socrate, qui n'a pas sommeil, sort après cette longue soirée pour se promener dans Athènes. Lui et le sommeil ne se connaissent pas. Ils n'ont pas, font pas bon ménage. Il est en état d'insomnie, n'est-ce pas, lui, d'insomnie perpétuelle. Eh bien, je dirais également que l'ironie étant ce principe du réveil est ce qui nous entretient dans la mobilité, qui nous permet d'aller toujours au-delà, d'aller plus haut, sans s'arrêter au palier. Et, ou en comprenant que l'épivacis est vraiment une halte provisoire, qu'elle est vraiment un degré provisoire dans l'échelle dialectique.